quand j'ai créé cette entreprise là, voilà, à 19 ans évidemment, quand je saute dans cet avion pour l'Amazonie à la recherche de la sagesse, quand j'ai commencé les premières lignes de ce livre, c'est peut-être celui-ci le moment le plus pourquoi pas moi que j'ai vécu, parce que voilà, c'est cette notion et c'est la conclusion du livre, hein, c'est je le dis en, vraiment en toute humilité, à la fin du livre, dans cette lettre dont tu viens de parler que j'écris à mon fils, j'ai mon parcours, mais j'ai pas la vérité absolue. Je suis moi aussi un étudiant de la vie. Et en fait, voilà, c'est ce que je lui écris un moment. Je lui dis, ce à quoi je souhaite t'encourager ici, c'est à identifier tes rêves et les écrire pour mieux les réaliser. C'est peut-être ça le secret d'une vie réussie. Et voilà, c'est se rappeler de nos rêves et de se dire qu'en fait, rien n'est impossible, qu'en tout cas, il faut se mettre en marche, se mettre en musique pour réaliser nos rêves.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Romain est un homme au parcours surprenant. Il grandit dans le très chic ouest parisien et en parallèle de son école de commerce, il décide d'assouvir son envie d'entreprendre en organisant des soirées. Il gravit les échelons pour finir à la tête d'une dizaine d'établissements et diriger plus de 200 personnes. Mais Romain n'était pas à sa place et la vie le lui a rappelé. Il fait un burn-out, perd tout et part en Amazonie où il se rencontre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Romain Dian.
Bonjour Romain.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît ?
Oui, alors avec plaisir. Cet objet est un instrument de musique, c'est un hang drum, c'est le nom qu'on lui donne, et il ressemble un peu, comme vous pouvez le voir, à une soucoupe volante. C'est un objet rond, et j'aime les formes rondes de manière générale, plutôt que les formes saillantes. J'aime aussi cet objet parce qu'il est pour moi une belle métaphore à la vie. On voit qu'il y a comme une espèce de petites bulles ici qui sont convexes, d'autres petits trous qui sont concaves, et donc ça ressemble aussi un petit peu à un cratère lunaire. Il y a cette idée pour moi de rebondissement, de promenade, et du coup de mélodie, parce que ce sont des notes très très hautes que l'on peut jouer grâce à cet instrument. C'est magnifique. Et voilà, et c'est donc un objet que j'ai découvert en janvier 2016, le premier soir, en arrivant en Amazonie chez ce chaman dans cette communauté là-bas, où l'objet juste se passait de main en main après le dîner. Bon, le chaman en jouait un petit peu, puis voilà, c'est un objet qui est extrêmement facile à pratiquer, donc voilà, très très accessible.
Super. Avant qu'on parle de cette expérience en Amazonie qui a transformé ta vie, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ?
J'ai grandi à Paris, dans un milieu assez, comment le qualifier, plutôt conservateur, avec quand même une ouverture d'esprit, dans l'ouest de Paris, j'étais plutôt dans des écoles privées, pour tout vous dire d'entrée de jeu, je me suis senti assez tôt un peu enfermé, emprisonné dans cet univers qui était super par des tas de côtés, et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Il y a eu vraiment c'est réel que grandir dans un univers comme celui-ci, c'est un privilège, mais par ailleurs pour le développement humain, pour l'ouverture d'esprit, enfin plein de choses qui moi comptaient pour moi, qui était importante, c'est vrai que j'avais ce sentiment d'être un peu enfermé, et j'avais très envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, derrière les murs de cet univers.
Et petit, tes parents donc se sont séparés quand tu étais pas très âgé ?
Ouais, j'avais 3 ans.
Du coup, est-ce que t'as des souvenirs de cette vie de tes parents à deux ou pas ?
J'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai quelques flashs et j'en ai reconstitué quelques-uns, des souvenirs à travers les différentes cérémonies rituelles chamaniques que j'ai donc fait dans ces années où je me suis en fait intéressé à ce passé parce que justement je voulais connaître quelle avait été vraiment l'ambiance et puis au-delà de l'ambiance me rappeler quelle avait été cette jeune enfance parce que j'ai lu de beaucoup comme on le sait de beaucoup de psychanalystes de philosophes de psychologues que en fait l'être humain se construit de 0 à 7 ans. Et qu'en fait, 7 ans qu'on appelle d'ailleurs l'âge de raison, c'est là où se construit toute la structure de l'ego. Donc que quelque part, toutes les expériences qu'on a de 0 à 7 ans nous forgent, c'est un peu triste, mais que à partir de 7 ans, peut-être que tout est joué. Je ne le crois pas vraiment, parce qu'évidemment, une expérience chamboulante qui pourrait nous arriver à 20 ans va aussi nous forger, et la vie tout au long de son cheminement continue de nous forger. Mais voilà, donc je voulais connaître quelle avait été cette enfance. Et voilà, ce divorce a été évidemment quelque chose de douloureux, qui a été en fait constitutif après de beaucoup de choses, notamment d'une dualité assez importante. Tout le monde vit en dualité, hein, dans le monde moderne, c'est normal. Mais peut-être là, c'était une dualité chez moi encore un peu plus importante. Puis il se trouve que je suis Gémeaux ascendant Balance, ce qui a peut-être au plan des astres encore renforcé cette dualité. Voilà.
Et quand t'étais un petit garçon, quel type de petit garçon t'étais ?
Eh ben j'étais un garçon sage. Et c'est d'ailleurs le terme qui revenait très souvent de personnes comme ma grand-mère, les personnes adultes. Voilà, on me disait souvent que j'étais sage. Il y avait aussi le mot raisonnable qui revenait souvent. J'étais quelqu'un de très gentil, profondément gentil, qui voulait vraiment faire le bien autour de lui. Justement, j'avais grandi dans ce divorce un peu entre mon père et ma mère, qui était voilà dans ce conflit, et donc il y avait toujours cette volonté de vouloir apaiser les choses, de faire en sorte d'être celui qui au milieu va faire que les choses sont plus agréables, plus douces. Voilà, ça c'était l'enfance. Et après. Mais on en parlera après, c'est quelque chose qui a évolué.
Ouais. Et c'était quoi tes rêves à toi de petit garçon ?
J'avais pas du tout le rêve de faire le tour du monde, ni d'être pompier ou quoi. Je me souviens pas vraiment de mes rêves de petit garçon de moins de 10 ans. En revanche, je me souviens de mes rêves de jeune adolescent, je dirais à partir de... Ouais, quand même assez jeune, à partir de peut-être 10, 11, 12 ans. J'avais ce rêve de devenir... un entrepreneur. Je voulais créer une entreprise depuis vraiment un très jeune âge. J'étais fasciné par les chefs d'entreprise. Mon grand-père en était un et voilà, j'avais aussi grandi dans une sorte de, comment dire, pas de culte de sa personne, mais voilà, c'était quelqu'un d'assez exemplaire. Hein, faut vraiment le reconnaître dans tous les domaines de sa vie. Et donc, il m'avait beaucoup inspiré. J'étais aussi son premier petit-fils, donc je m'étais toujours senti très relié à lui, même s'il est parti quand j'avais 10 ans. Et puis donc, du coup, voilà, j'ai eu cette envie. Il y avait aussi eu un livre qui avait été écrit sur une histoire entrepreneuriale familiale dont mon grand-père avait été un des principaux artisans, mais voilà, qui remontait à 5 générations. J'avais un peu aussi grandi avec ce livre sur ma table de chevet, qui m'avait énormément inspiré, qui me faisait vraiment rêver, et je voulais en fait refaire quelque chose de similaire.
Génial. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au moment du choix des études ?
Eh ben, très simplement, le choix des études. Bon, ben, moi, très franchement, si j'avais pu ne pas en faire, je n'en aurais pas fait. Voilà, c'était, comment dire, ça aurait été compliqué de pas en faire à plein de niveaux. Donc, j'ai tout de suite regardé les écoles de commerce, qui était vraiment la seule chose qui m'intéressait. C'était vraiment d'apprendre à faire du business, à créer une entreprise. Voilà. Alors, j'ai pas appris grand chose en école, mais voilà, parce qu'en réalité, j'ai créé cette entreprise à 19 ans, donc au tout début de cette école. Mais disons qu'en tout cas, voilà, ça c'était lié à ce que je voulais faire.
T'es allé du coup au bout de l'école de commerce ou t'as arrêté avant ?
Ouais, j'ai quand même été au bout. C'est une école qui en prépa intégrée qui durait 5 ans. Voilà.
C'était laquelle ?
Elle s'appelait l'ISG à Paris. Et du coup, je développais mon entreprise en parallèle.
Et justement, du coup, ça s'est passé comment, donc la création de cette entreprise ? Et c'était, enfin, moi, je sais ce que c'est cette entreprise, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'était, est-ce que c'était?
Bah, cette entreprise, c'est un des plus grands moments de ma vie. C'est, voilà, j'ai 19 ans, j'ai un copain qui rentre de Londres, qui a découvert un concept de soirée sans alcool pour adolescents dans des boîtes de nuit avant minuit, le samedi soir, de 19h à 23h, qui commence à créer ce concept, etc. Je le rejoins. Et là, c'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise. Voilà. Et c'est l'année, je me souviens de mes 20 ans, parce que très rapidement, j'ai 20 ans et je suis là complètement euphorique tous les matins. Je me lève avant le réveil, je saute de mon lit. C'est vraiment le cliché du jeune surexcité par ce qu'il a à faire dans sa journée, par le sentiment d'être vraiment très très raccord, d'être totalement aligné avec ce que j'ai envie de faire au fond de moi, avec mes valeurs profondes. Alors mes valeurs profondes relativement, parce que c'est dans un secteur qui est le secteur de la nuit. Alors pas vraiment à l'époque, parce que les soirées sont avant minuit, donc on flirte avec le monde de la nuit. Ça deviendra quelques années plus tard le monde de la nuit. C'est là où je commencerai à avoir un peu une sorte de conflit intérieur par rapport à ça, mais toujours est-il que ces premières années, 20 ans, 21, 22 ans, en plus, ça marche assez rapidement bien, on gagne pas mal d'argent, en tout cas pas mal d'argent pour notre âge. Ça me permet aussi de faire plein de trucs, de voyager, de vivre vraiment une vie extraordinaire à 20 ans. On est invité sur des différents médias. Donc tout de suite, il y a un truc qui s'emballe, qui est extrêmement, une effervescence. C'est très stimulant. Et puis, j'aime vraiment chaque jour, chaque heure, chaque minute, j'aime ce que je fais.
Et à ce moment-là, personne dans ton entourage a essayé de te dissuader en disant « concentre-toi sur tes études
Pas vraiment. Comme je disais, il y a une culture entrepreneuriale forte dans ma famille. Pour autant, effectivement, je sentais bien que il fallait faire mes études aussi, quoi. Puis c'était pas non plus des grandes études, l'idée c'était quand même d'aller au bout de ces études, parce qu'en plus c'était à l'époque à 20 ans, c'était un business d'étudiant, quoi. Donc rien ne disait que ça durerait, que ça m'emporterait, ça m'emmènerait au-delà de mes études. Donc peut-être je faisais ça pour quelques années. Donc c'était quand même important de finir mes études pour après, je sais pas si j'avais voulu faire autre chose. Mais voilà. Donc du coup, j'ai fini mes études du coup.
Et à quel moment tu t'es dit que ça allait justement être ton métier et que tu
C'est vraiment ça, hein. L'entrepreneuriat, il y a toujours cette sorte de proverbe qui dit qu'une entreprise, il faut 3 ans pour la mettre sur pied, etc. Je pense que c'est vrai, parce que j'en ai mis plusieurs sur pied, et c'est souvent ce que j'ai observé aussi autour de moi. Dans la majeure partie des cas, c'est quand même ça. C'est vraiment une étape après l'autre, un pied devant l'autre. Et par exemple, très concrètement, l'entreprise avait 3 ans, ou c'était sa 3e année, je pense. Il y avait pas mal de hauts et de bas, hein. D'ailleurs, ça avait marché très fort, je me souviens, la première année. Je me souviens qu'on avait eu un concurrent la 2e, donc déjà, ça avait moins bien marché. Après, on s'était lancé dans une production de vêtements pour faire une marque de vêtements liée à nos soirées. Ça avait été un flop total.
Vous avez failli tout perdre à ce moment-là, du coup.
Ouais, on avait failli tout perdre. Voilà. On s'était débrouillé avec des trucs de des entreprises de déstockage. On a réussi à sauver des meubles. Encore une fois, on était vraiment jeunes, on tentait un peu tout ce qui nous passait par la tête. Mais en fait, la 3e année, c'est l'année d'un stage en entreprise là dans mon école. Et en fait, je fais ce stage dans mon entreprise. Donc ça, c'est génial.
T'as eu le droit de faire ça? C'est chouette.
Ouais, j'ai eu le droit de faire ça. Et du coup, c'est génial parce que c'est ce qui me permet d'être à fond dans ma boîte. Parce que c'est vrai que les deux premières années, j'étais quand même, j'étais pas disponible à plein temps. Donc, on bossait vraiment le soir, les week-ends, la journée aussi sur mon ordinateur au fond de la classe. Mais voilà, c'est des étapes, qui sont vraiment comme construire une maison de briques, hein. C'est vraiment l'une après l'autre. Et puis, une fois à la fin de ce stage, j'ai tout simplement continué à aller à mon bureau, qui était un bureau à côté de pas très loin de chez moi à Paris. où j'allais tous les matins comme un chef d'entreprise normalisé, quoi, parce que je m'étais donc au cours de ces années normalisé, et à l'époque on avait déjà 4-5 salariés, on avait formé en fait le petit concept embryonnaire de soirée sans alcool était devenu en fait une sorte d'agence événementielle.
Ok. Et donc au moment de la fin de tes études, il n'y avait pas de question, tu continuais là-dedans et...
À la fin de mes études, je continue et ça dure comme ça une petite dizaine d'années, donc jusqu'à 32 ans.
Et là, du coup, agence événementielle, il y a un moment où c'est assez engageant parce que tu commences à reprendre des lieux.
Ouais, ça c'est l'étape d'après, c'est qu'à un moment donné, je réalise que en fait... on a le contenu, c'est-à-dire une agence événementielle qui, à l'époque, pour donner un chiffre, elle fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, je dois avoir 23 ans à peu près, donc à la fin de ce stage de fin d'études. On a donc 4-5 salariés. Et donc, on a donc un contenu. C'est-à-dire qu'on remplit des lieux, et notamment un lieu à l'époque à Paris, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Plaza Madeleine. Et du coup, il y a une possibilité, une opportunité pour reprendre ce lieu assez bas prix parce qu'il est assez endetté, il marche pas bien du tout, etc. Et là, je réalise que c'est pour nous, c'est vraiment important de passer du contenu au contenant, c'est-à-dire et d'avoir les deux, c'est-à-dire de remplir des lieux, mais aussi de reprendre des lieux et donc du coup de développer comme ça un groupe de lieux, d'établissements. Et je reprends ce lieu qui est une sorte de boîte de nuit, lieu événementiel dans le centre de Paris. Et là, c'est encore une nouvelle étape et c'est encore un grand moment. Même si l'acquisition est un truc un peu douloureux, je commence aussi à comprendre que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un monde tendre, mais quand même, parce que la négociation est assez lourde, longue, c'est complexe aussi. Je réalise que c'est ce dont j'ai toujours rêvé, mais là, c'est des montages de société avec il y a des notions fiscales, comptables, juridiques. Je découvre quelque chose de nouveau que j'ai, en l'occurrence, pas du tout appris en école. Et donc, je reprends ce lieu. C'est encore un grand moment parce qu'avoir un lieu à Paris, c'est aussi, un rêve, qui se concrétise. Et là commence donc un peu un nouveau chapitre.
Et là, à ce moment-là, t'as eu des peurs au moment de reprendre ou t'étais plus excité que la peur?
Énorme. Et je tiens à le dire, faut pas avoir peur d'avoir peur, parce que la réalité c'est que je vivais dans la peur. J'avais vraiment beaucoup de peur, de sentiment toujours de faire un saut d'une falaise. Il y a cet entrepreneur fondateur de LinkedIn qui dit, j'aime beaucoup cette phrase. Je la reprends en même temps qu'on se parle là dans mon livre, parce que en plus je la cite. C'est la citation du premier chapitre. Il dit: un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. Ray Doffman, donc le cofondateur de LinkedIn. Et c'est un peu ça que j'ai l'impression de faire assez régulièrement, quoi. Et c'est aussi lié à une personnalité, c'est-à-dire qu'en fait, dès que je suis dans la stabilité, dans une forme de confort, que ça commence en fait à aller bien professionnellement, et que je suis dans un sorte de palier, parce qu'il y a des paliers quand on est dans une croissance, c'est comme un escalier, quoi. En fait, on peut décider de s'arrêter sur une marche, ou on peut décider d'être toujours dans la dynamique de monter l'escalier. Et je vois bien que dès que je m'arrête sur une marche, il y a quelque chose de très, pour moi, spécial, enfin, de très inconfortable, en fait, au plan émotionnel, quoi. C'est là où je rentre vraiment dans une autre forme de compréhension des choses. Je m'ennuie, je commence à me sentir un petit peu inutile. Il y a un besoin très fort d'activité, de dynamisme, de suractivité et de consommation, quoi. Consommation, c'est pas tant consommation d'acheter des vêtements, j'ai jamais trop été là-dedans, mais c'est consommation de projets, de rencontres,
sortir de sa zone de confort, quoi. Ouais.
En permanence. Et donc ça peut être un petit peu quand même fatigant, épuisant pour le corps, l'esprit, de se mettre en fait en danger.
Jusqu'à ce que tu te mettes vraiment en danger.
Jusqu'à ce que je me mette vraiment en danger. En réalité, je me mets en danger régulièrement, c'est quasiment peut-être tous les ans, parce que chaque acquisition est un nouveau danger, parce que en plus, je ne crois pas, je ne grandis pas de manière organique à l'époque, comme certaines entreprises, où du coup, c'est une croissance, mais disons qu'elle est mesurée, elle est organique, elle se fait de manière un peu plus fluide. Moi, c'est des acquisitions qui se font quand même souvent dans la douleur, c'est-à-dire que je reprends des lieux endettés, qui sont souvent en plus des concepts différents, parce que je reprends des lieux nocturnes, aussi des restaurants, puis un bar, puis après je tourne vers l'événementiel. Donc tout ça va assez vite. Il y a un manque au fond quand même d'ancrage, de centrage. Ça, c'est évidemment des choses que je peux dire aujourd'hui, hein, mais à l'époque, j'en avais aucune idée. Ensuite, à chaque fois, ces lieux sont, comme je le disais, assez endettés, donc ça met quand même une pression court terme importante, voilà, parce que c'est pas si simple d'avoir des financements. Le milieu nocturne, voilà, ne plaît pas vraiment aux banques. Concrètement, c'est intense. C'est en même temps ce qui me donne beaucoup plein d'adrénaline. Cette adrénaline, je la recherche, hein, comme je l'ai expliqué. Et en fait, je m'en rends absolument pas compte. Mais là, aujourd'hui, je peux le dire, j'étais complètement dépendant, complètement addict à cette adrénaline, à cette frénésie de vie, à cette hyperactivité, à cette surconsommation de projets, sans laquelle je ne me sentais pas vivant.
Et qu'est-ce qui a fait que ton corps, à partir de quand t'as compris que ton corps il commençait à te parler fort?
Assez tôt, hein. Je vois quand même bien que je me souviens de faire mes premières insomnies. À l'époque, j'ai 21 ans, hein. Donc là, on fait un petit flashback et il est question de reprendre les bains douches. Mais juste ça, alors que j'ai 21 ans, ça fait 2 ans que je suis dans ce business. À l'époque, je fais que des soirées sans alcool. Je crois que je commence à organiser des soirées après minuit. Puis voilà, là, je loue justement les bains douches, à l'époque, qui est un lieu qui est un peu en souffrance. Et donc, du coup, il y a, voilà. Et je me souviens de travailler 3 mois avec déjà un avocat. Mon père me donne un coup de main aussi, il est avocat à l'époque. Voilà, j'ai mon associé aussi de l'époque. Je suis 3 mois dans cette étude, mais qui me met dans des espèces d'états d'euphorie et de détresse, d'angoisse, quoi, qui peuvent être au sein de la même journée, quoi. Donc il y a quelque chose, il y a quand même une profonde instabilité émotionnelle, et ça, c'est quand même la dominante de cette décennie de 20 à 30, et qui se reflète du coup dans ce développement entrepreneurial. Voilà, et donc de fil en aiguille, je reprends comme ça en fait pour arriver à 30 ans avec une dizaine de lieux. J'ai donc repris une dizaine de lieux. Là, j'ai maintenant à peu près 150 salariés. Puis il y a des lieux en plus, un lieu en plein air saisonnier. Bon, enfin voilà, il y a donc c'est devenu une vraie usine. Beaucoup de l'entreprise est à l'image de moi assez instable, hein, en fait les performances sont instables, les équipes, il y a pas mal de turnover dans les équipes.
Et puis en plus c'est un univers où t'as beaucoup de turnover, enfin c'est
ouais,
pas
voilà. C'est aussi merci c'est... de le dire effectivement merci de le rappeler. Voilà, c'est effectivement un univers qui est très 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 cyclique, les effets de mode vont et viennent extrêmement rapidement. Et donc forcément, ça contribue à quelque chose d'instable, quoi. Mais à l'époque, toutes ces remarques là que je fais, je n'en ai absolument pas conscience. Je pourrais même dire que j'avais envie juste de développer une idée qui est, que je trouve intéressante, que j'ai compris plus tard, qui peut peut-être aussi être intéressante pour nos auditeurs. C'est cette différence entre se sentir heureux et se sentir vivant. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai une vie de rêve, voilà. Et donc, de l'extérieur, tout est magnifique. Je développe un groupe génial. Et ça marche, quoi. Honnêtement, je reprends des beaux lieux avec des associés qui sont compétents. Les lieux marchent. Alors, en général, voilà, le problème, c'est qu'ils marchent pas forcément dans la durée. Mais il y a vraiment toute cette dynamique autour de moi. Et puis, voilà, j'ai une vie assez cool. De manière générale, ma vie sociale, ma vie sentimentale, j'ai plein de copains, c'est la vie est belle, quoi. Et moi, bon, effectivement, tout ça, c'est au prix de quand même des up and down assez permanents. Mais si à l'époque vous m'aviez croisé dans la rue et si tu m'avais demandé si j'étais heureux, je t'aurais dit mais je suis l'homme le plus heureux de la planète et je me sentais très heureux. En fait. Mais sauf que j'oubliais qu'il y avait des grands moments de solitude, des grands moments de down qui parfois pouvaient durer une journée, une semaine ou parfois quelques mois, parce que quand j'étais dans une espèce de spirale d'angoisse parce qu'un deal devait se faire ou pas se faire, que ça pouvait tout changer, c'est des comportements en fait qui sont évidemment pas des comportements de heureux. Et donc en fait à l'époque je ne fais pas la différence entre voilà être heureux et être vivant. Et en fait je me sens vivant. Voilà, je me sens dans cette hyperaction, cette surconsommation, comme sous perfusion à cette adrénaline permanente. C'est en fait comme un shoot que j'ai besoin de me mettre régulièrement, sans quoi je ne me sens donc pas vivant. Mais en réalité, voilà, et donc je commence à faire un peu la différence entre bonheur et adrénaline, quoi. Et en fait, je commence à comprendre que cette adrénaline, c'est quelque chose de très éphémère, qu'il faut constamment pédaler pour la créer, la générer. Et donc, en fait, petit à petit, à partir de 25 ans, il y a cette prise de conscience. Et puis, c'est là où je commence à voyager, à faire des voyages très lointains l'été. Je pars avec un sac à dos pour me vider la tête. J'ai vraiment besoin de ça comme une sorte de thérapie, de faire le vide. Je pars au bout du monde, en Amérique du
Sud. Tu pars seul?
Je pars très souvent seul. Ça dépend un peu aussi de ma situation de l'époque. Parfois, je pars avec
un copain,
parfois, je pars avec une petite amie. Mais souvent, je pars seul et j'aime partir seul. Voilà. Dans cet inconnu, c'est encore d'ailleurs des trucs où je me mets même l'été, il y a quand même toujours aussi ça, quoi. C'est parce que partir seul, c'est quelque chose d'assez, on se confronte, on sort de sa zone de confort, comme on dit, on se met un peu en danger. Je me souviens de ce premier voyage que je fais d'ailleurs au Brésil. Je pars là pour le coup, c'est 2 mois, je me souviens, on est vers le 9-10 juillet à Paris, je prends des longues vacances, et je pars jusqu'à fin août. Je me souviens des 3-4 jours avant à Paris, alors que j'ai pris mon billet, que je pars tout seul et que je réalise, ouais, j'ai 2-3 copains là-bas, mais concrètement, je me dis, mais dans quoi je m'embarque encore? Donc en fait, c'est constamment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de... Et je réalise qu'il y a des notions, et donc je commence à lire aussi un peu des livres là de développement personnel. Je me souviens que dans un de ces voyages, je lis, là j'ai déjà 27-28 ans, je lis Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je m'intéresse à tous ces nouveaux sages, ce qu'on appelle ces nouveaux philosophes qu'on a là tout autour de nous, qui du coup m'ouvre un peu la voie sur autre chose. Et je réalise que, en fait, ce bonheur que je crois vivre, je suis pas du tout sûr que ce soit ça, parce que là, je rencontre des nouvelles notions, hein, comme un nouveau champ lexical. Dans ces livres, on parle de sérénité, de bien-être, de paix intérieure, de calme, d'harmonie, etc., etc. Et là, je réalise, en fait, toutes ces notions-là, je ne les connais pas, et je suis très loin de ça. Et donc, en fait, le bonheur, j'en suis loin. Et donc là, je commence vraiment à comprendre quelque chose.
Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre que ce qui m'a surpris, mais finalement pas tant que ça, c'est que à l'époque, tu avais honte de ton métier. Quand justement, tu étais en voyage, tu disais pas que tu étais chef d'entreprise dans la nuit.
Ouais, alors cette honte, elle est quand même relativisée. Je n'en avais pas du tout honte quand j'étais dans le vortex parisien. Au contraire, j'en étais même assez fier de cette réussite. Mais quand je voyageais, que je sortais justement de ce petit microcosme parisien et que j'allais, par exemple, je raconte cette anecdote dans le livre où j'arrive au Machu Picchu et je vois des backpackers avec des longues barbes, des cheveux longs, un peu des hippies, quoi, qui vivent vraiment d'amour et d'eau fraîche. Et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Et une part de moi les envie. Et une part de moi se sent, ouais, effectivement, je me sens un peu... presque un peu con, quoi. Je me dis, en fait, est-ce que j'ai vraiment compris la vie? Je me mets constamment dans des trucs de stress, d'angoisse, de peur. Alors ok, je développe ces entreprises, c'est super, mais en même temps, est-ce que peut-être je le fais d'ailleurs, est-ce que je le fais de la bonne manière, ou est-ce que tout simplement je devrais pas faire autre chose? Je précise aussi qu'il y a quand même un truc quand même assez fondamental dans mon histoire qui probablement m'amène vers tout ça, c'est que j'ai vraiment grandi avec une mère assez bohème qui elle-même artiste, qui se cherchait pendant longtemps et qui est devenu une écrivain, un beau-père aussi qui est écrivain, et de l'autre côté mon père qui est avocat d'affaires, après qui est une sorte d'homme d'affaires, qui devient business angel et donc qui est vraiment dans les affaires, dans le business, et donc il y a cette culture du côté paternel entrepreneurial qui est vraiment très forte. Et donc quand je parlais de cette dualité, elle est évidemment liée à ça. Ma mère vote à gauche, mon père vote à droite, et ça paraît peut-être peu comme ça, mais en fait dans la conscience d'un enfant, c'est compliqué à gérer. C'est enrichissant d'un certain côté, mais il y a aussi quand même une notion de se demander, alors finalement, qu'est-ce qui est juste ou quoi. Alors moi, je démarre vraiment en empruntant la voie de mon père, mais en cours de route, il y a comme cette petite voix qui murmure de ma mère, qui nous avait éduqués, mon frère et moi, dans des principes un peu anticapitalistes. Et donc, ça avait créé un grand conflit dans l'enfance et dans l'adolescence. Et là, du coup, c'est comme si ça me rattrapait un peu.
Et dans les moments marquants dans ta vie, un jour, tu as été pris dans une avalanche.
Ouais. C'est un chapitre que je dédie, et c'est un message que je voudrais faire passer là d'ailleurs là aujourd'hui, parce que c'est vraiment peut-être le plus important pour éviter le burn-out, parce que c'est peut-être ça hein, ce que recherchent nos auditeurs qui nous écoutent, c'est de pas arriver à cette situation. Et donc c'est d'écouter les signaux de la vie. Il y a rien d'ésotérique ou de farfelu là-dedans, c'est pas une interprétation ésotérique de ces signes. C'est simplement que la vie met sur notre route très régulièrement, c'est juste le produit aussi de notre action, de qui on est, de ce qu'on fait dans le monde, de comment on agit, et il se passe des choses. Et on a souvent, si on est à l'écoute, qu'on observe un peu ça et qu'on prend un peu du recul sur notre vie, on a des petits incidents, des petits accidents, ça peut être des tas de choses. Ça peut aussi être parfois, je sais pas, juste écouter quelqu'un à la radio ou une conversation avec un bon ami qui parfois peut nous interpeller et du coup peut éveiller quelque chose en nous, et on peut parfois se dire je suis pas forcément là dans la bonne manière de faire les choses, je suis pas dans la bonne énergie, à l'époque, il y a un moment donné entre 25 et 30 ans, j'ai beaucoup de ces signaux, dont cette avalanche dans laquelle je suis prise, effectivement, où j'ai vraiment tout simplement failli mourir, et j'ai d'ailleurs cru que je mourrais en fait pendant vraiment 30 à je sais pas 40 secondes. J'ai vraiment commencé même à formuler des pensées d'adieu, parce que j'étais donc ensevelie, j'avais tout perdu, ski, bâton, tout, je pouvais plus respirer, l'avalanche devait faire 2-3 mètres de haut. Et donc vraiment, je me suis dit, j'avais 26 ans, je me souviens, ça se trouve, c'est la fin, c'est là que ça s'arrête, j'aurais pas cru que ça s'arrête si tôt, mais je me commençais à me dire ça. Et en fait, je n'ai pas su écouter ces signaux. Il y en a eu plein. Bon, là, il y a cette avalanche dont tu parles, mais il y en a eu plein d'autres. Et en fait, après coup, et donc, j'aime bien dire aujourd'hui qu'il y a en fait, j'aime croire que, c'est pas que je crois en un plan supérieur organisé par un dieu avec une grande barbe, pas du tout. Je crois que c'est juste que la vie a une sorte de, il y a comme une sorte d'intelligence organique et subtile, qui est là, et en fait c'est à nous aussi de se relier à ce flot de la vie, à être un peu en harmonie avec les choses, les événements, les éléments, et donc d'être à l'écoute de ce qui se passe, et du coup de parfois cette avalanche m'invitait tout simplement à ralentir. J'ai pas su le faire à l'époque, au contraire, j'ai continué vraiment dans mes travers, de plus belle, et dans le mépris total du divin, parce qu'effectivement, dans ces signaux de la vie, il y a quand même, j'ai reconnais un peu une signature du sacré, et donc en fait, ne pas en tenir compte, c'est quelque part mépriser le divin, quelque part.
Mais c'est sûr que moi, tu vois, je sais que depuis, ça fait 2 ans maintenant où j'écoute les signaux, et en fait, toutes les semaines, je suis surprise, et c'est incroyable. Enfin, tu vois, là, en ce moment, je vais pas raconter en détail aujourd'hui parce que j'en parlerai plus tard, mais aujourd'hui, c'est trop chaud pour moi pour en parler, mais j'ai vécu un truc il y a pas longtemps, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il y avait une probabilité sur 60 000. Et tu dis, mais comment ce truc est possible? Et tu dis, mais ça, c'est un signe qui t'est envoyé en pleine figure, qui fait pas du tout plaisir à voir, mais qui te dit, Charlotte, regarde. Et je sais que pour plein de choses. Alors là, c'était pas un truc positif, mais il y a toujours du positif dans toutes les situations. Il faut les voir après. Mais clairement, tu vois, je me dis depuis 2 ans. À chaque fois, il y a des petits trucs et je me dis mais ça, ok, t'es sur ton chemin ou t'es pas sur ton chemin, il faut passer sa route quoi.
Mmh. Ouais, c'est exactement ça. La vie nous parle en fait.
C'est ça. Il faut juste l'écouter.
Et c'est à nous d'écouter, ouais. d'être en lien avec la vie, d'être. Je parlais de me sentir vivant, là c'est plutôt d'être en lien avec le vivant. Donc c'est un peu différent quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est peut-être une vraie manière d'être vivant, quoi. Une manière sereine d'être vivant et d'être dans la vie. D'être en lien avec le vivant, en lien avec la nature, en lien avec les autres. voilà, être à l'écoute.
Carrément.
Ce qui n'empêche pas, je le précise, d'être dans l'action.
Mais non, en effet, clairement, parce que je veux dire, rien façon, si tu restes enfermé chez toi et que tu vois personne, tu vas pas créer d'opportunités.
Exactement.
Tu vas, il faut pas subir. Il faut au contraire être acteur et quand il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que soit t'es une victime, soit t'y agis et t'es acteur. Et en fait, si t'es victime, bah, en fait, il y a un moment, il va t'arriver, en étant vulgaire, que des merdes. Tandis que quand t'es acteur, tu vas dépasser le truc et tu vas te dire, OK, comment je me mets en chemin pour être bien, parce qu'on est, c'est prouvé en psychologie positive, on est responsable de notre propre bonheur, donc à chacun de se responsabiliser, même si la vie nous envoie parfois des choses un peu costauds à traverser.
Ouais, exactement.
Et donc du coup, tu t'arrives au burn-out, puisque tu accélères et que tu ne ralentis pas.
Ouais, en fait, il y a un moment donné où... j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Parce qu'il y a quand même un stade où je suis conscient de tout ça. Donc, c'est assez bizarre. C'est comme s'il y avait une scission en moi. Il y a comme une personne qui observe et une personne qui agit. Parce que donc, il y a quand même, à partir de 25, 26 ans, des prises de conscience et des lectures. Et voilà, je commence aussi un petit peu ces pratiques que sont le yoga, la méditation. Je fais des expériences de sophrologie, d'hypnose. Donc, il y a déjà une curiosité. J'avais commencé d'ailleurs une thérapie à l'âge de 25 ans. Je suis quand même déjà assez tôt dans ces recherches et dans cette volonté de comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Mais en fait, je suis aussi engagé dans une vie qui va à 200 à l'heure, qui est une vie d'entrepreneur dans le monde de la nuit, donc qui n'est pas forcément très compatible avec mon attirance pour ces pratiques, ces médecines alternatives, pour cette exploration du soi. J'emploie le soi avec un grand S. Et donc, à un moment donné, il y a une fissure, quoi. Concrètement, il y a une fissure. Il y a aussi sur tous les plans de ma vie, en fait, à 30 ans, même si il y a cette fête de fou où ça a l'air génial, ma vie, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un contraste terrible entre ce que je donne à voir et la réalité de comment je me sens. Ouais. Et sur tous les plans de ma vie, en fait, je réalise que, mes amis, je vois moins mes amis, je suis toujours aussi dans la recherche de nouveaux amis, de nouveaux cercles. C'est pas comme si c'était des nouveaux amis qui s'additionnaient aux anciens amis, c'est comme si en fait il y a un truc de substitution qui s'opère. Donc en fait, je réalise que je suis un peu dans mes relations sentimentales, c'est la même chose, je suis incapable de me poser dans une relation, je suis tout de suite très très impatient, c'est tout de suite très compliqué, je me sens très enfermé, en fait, dans aucun plan de ma vie, finalement, selon les critères du bonheur au sens de la paix intérieure, de la sérénité, de toutes ces notions, j'en suis très loin, quoi. Et donc là, la prise de conscience quelque part fait que ça devient en fait plus dur parce que je peux plus continuer à me mentir. Donc je commence à devenir ensuite, en plus, je commence à mépriser pas mal et je deviens assez cynique avec moi, cynique avec ma vie et tout ça en fait c'est quand même vraiment des signaux qu'au fond ça va pas, quoi. Et là je fais l'acquisition de trop, celle qui vraiment va me mettre dans le mur, un restaurant très endetté où je fais, pour être honnête, très peu d'analyse des comptes, etc. Il y a comme un psy de l'époque m'avait dit plus tard que pour elle, cette acquisition, c'était un peu un suicide psychanalytique. Et c'est là où vraiment je me mets dans le mur, quoi. Où en fait, là, ça y est. Voilà, la vie prend le dessus. Parce qu'il y avait aussi ce truc de toujours défier la vie. Hein. Il y a un truc un peu de pyromane, hein, je pourrais dire, ou en tout cas de joueur, de toujours voir à quel moment. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y avait aussi ça. Hein, je me mettais en danger, puis à chaque fois, je m'en sortais, quoi. Donc en fait, il y avait un sentiment aussi un peu perfide. D'invincibilité où en fait ça c'est l'ego, quoi, l'ego qui prend toute la place, qui croit que voilà qu'il est tout puissant et que donc en fait je peux tout avoir, tout faire, que finalement rien ne m'arrêtera. J'aime bien juste donner une définition de l'ego qui est un terme polymorphe qui peut prendre plein de définitions, mais j'aime bien celle-ci qui est: l'ego, c'est l'attachement névrotique à une image valorisante de soi. Voilà, et donc je suis vraiment là-dedans, quoi. Donc tout ce qui peut servir cet ego, je le prends, je l'engloutis. Mais à un moment donné, la vie me montre ma limite, que quelque part inconsciemment je recherche, hein, et je suis presque heureux. Il y a un soulagement, il y a une délivrance dans la rencontre de cette limite, donc dans cette année noire qui est donc ce burn-out que je vis donc en 2015. J'ai 32 ans. C'est vraiment sérieux, quoi. Je veux dire, je perds pied. Je dois avoir un psychiatre qui me souscrit des antidépresseurs. Parce qu'il faut tenir aussi. Donc ces antidépresseurs, j'aime bien l'expliquer comme ça. En fait, je les prends pendant une année, l'année 2015, qui est l'année où je vends toutes mes entreprises. Je les cède. Alors voilà, dans des conditions assez mauvaises, je les brade en fait, un peu dans l'urgence, parce qu'il faut que je sorte de ça. Mais il y a quand même, voilà, j'ai la responsabilité de 150 personnes. J'ai des capitaux personnels et familiaux aussi qui sont engagés. Donc j'ai beaucoup de pression et il s'agit pas de ne pas se lever le matin. Donc en fait les antidépresseurs, ils m'empêchent probablement de faire une vraie dépression. Je tombe pas non plus dans la dépression, c'est-à-dire que voilà, j'arrive quand même encore à fonctionner, mais très probablement grâce à ces médicaments. Donc il y a ça, j'ai des idées assez noires, je commence à avoir des envies suicidaires, ça dure à peu près pendant 3 mois. J'en parle un petit peu dans le livre. Ouais. Je me souviens de janvier à mars 2015, voilà des idées quand même assez concrètes. Et donc aussi un repli sur soi, là je m'enferme, puis de toute façon je prends tellement de coups la semaine, je travaille 12 heures par jour, mais il faudrait que j'en travaille le double, je reçois, je sais pas, des 200 emails par jour, je suis constamment à répondre à des emails, à être entre les rendez-vous, mais en fait je suis comme un plombier qui colmate des fuites, c'est un peu tard, là j'ai trop de lieux sous ma responsabilité, j'ai pas assez d'équipe, voilà, concrètement il y a aussi en plus un contexte à Paris, c'est l'année des attentats. C'est aussi un moment donné où il y a eu toutes ces lois sur la cigarette où on peut plus fumer dans les établissements. Donc en fait, c'est le développement de tous les lieux en plein air. Donc en fait, toutes les lieux en sous-sol sont concrètement désertés du mois de mai au mois de septembre, parce que dès qu'il fait un peu beau, voilà, les gens, c'est voilà la grande euphorie des terrasses, etc. Bon, etc., etc., etc. C'est donc vraiment le cercle vicieux, là, et la machine, c'est l'engrenage infernal. La machine est bien plus forte que moi. Ça s'est pas joué à peu, quoi. C'est clairement, c'est un chaos total. Et voilà. Et en même temps, je le dis, il y a quelque chose d'une délivrance. Et je me retrouve, du coup, en décembre 2015. Je vends mon dernier lieu, qui est cette boîte de nuit que certains de nos auditeurs ont peut-être connu, qui est Régine. On est le 23 décembre 2015 et là, je suis quand même très amoindri physiquement, très fatigué, psychologiquement quand même très fragilisé. Ça fait un an que je prends ces antidépresseurs. Le médecin m'autorise enfin à les arrêter une fois que le dernier lieu est cédé et que là, voilà, il y a comme une page blanche qui est devant moi et c'est en même temps très excitant parce qu'enfin, je suis libre.
Excitant et j'imagine inquiétant, stressant aussi.
Ouais, mais pour être très honnête, il y a aussi, tu sais, c'est cet effet, après une période très douloureuse, très difficile et tout, il y a comme un truc, peu importe ce qu'il y a, à partir du moment où on ne souffre plus, enfin c'est pas qu'on ne souffre plus, mais où, je sais pas, la machine s'arrête, là déjà, je peux respirer, je peux revivre. C'est pas que j'ai envie de voir beaucoup de monde, je suis quand même vachement déjà dans l'introspection, je vois des films, mais des films engagés, des documentaires sur des gens justement qui ont eu des parcours, je regarde les documentaires de Gandhi, Luther King, Mandela, ça me fait du bien, le commando Cousteau, fabuleux documentaire au passage, j'adore les histoires réelles, des histoires qui sont extraordinaires et qui finalement n'ont pas besoin d'être de la fiction pour devenir des romans de vie, quoi. Et donc ces films me font du bien, c'est là où aussi je fait la découverte de Mathieu Ricard, qui est une personne qui sera très importante dans mon cheminement, qui m'inspire énormément et qui me donne surtout de la force, quoi. Mathieu Ricard, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un moine bouddhiste tibétain, qui est un Français, qui est parti à 26 ans dans l'Himalaya alors qu'il avait fait un doctorat en biologie moléculaire, qu'il était chercheur au Collège de France. Il était premier à une très belle carrière scientifique et donc il part à la rencontre des maîtres tibétains, il y passe 40 ans, et donc voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, etc. Et voilà, et donc il me fait, son existence me rassure, de dire qu'il y a des êtres comme ça qui existent, que finalement une autre voie est possible, que prendre la tangente c'est possible. Donc je commence à avoir toutes ces idées, puis voilà, j'approfondis un peu ma pratique du yoga, de la méditation. J'y trouve un vrai apaisement. J'y trouve aussi, je commence à lire aussi les enseignements un peu qui en découlent, enfin, ou plutôt dont découlent ces pratiques, qui sont les enseignements bouddhistes, hindouistes, etc. Je trouve, voilà, dans les sagesses orientales, un peu une autre lecture de la vie, où il parle beaucoup d'ailleurs de la non-dualité. Donc, ça m'attire beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette non-dualité? On explique, en fait, bah, que l'être humain, on est construit comme ça, on voit les choses, dualité bien, mal, voilà, blanc, noir, et en fait, qu'au-dessus de cette dualité, il y a juste la vie, quoi. On n'est pas obligé de tout voir comme bien ou mal, que finalement, bah, là, pareil, je viens de perdre toutes mes entreprises. C'est pas forcément mal, c'est peut-être ni bien ni mal, c'est comme ça, en fait, voilà. Et ça, je rentre dans tous ces, voilà, dans tous ces enseignements.
Et quand tu rentres dans tous ces enseignements, est-ce que ton entourage, parce que souvent quand on s'éveille à ce genre de choses, parfois il y a l'entourage qui, surtout quand on vient dans un milieu parisien, en mode waouh, qu'est-ce que tu fais, tu pars en cacahuète.
Alors ma chance un peu là-dedans par rapport à ça, hein, parce que je sais que ça peut être une pression pour les gens. Voilà, les gens n'aiment pas vraiment voir les autres changer. C'est rare que, parce que ça, forcément, ça remet en question notre propre vie. Donc, quand on est dans le sérail d'un groupe d'amis, on a nos habitudes, bah, quand on a un qui bouge, forcément, ça peut venir remettre en question notre propre vie. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça. Mais pour autant, moi, j'ai, cette particularité, c'est que je viens de perdre toutes les entreprises, je sors d'un an d'antidépresseur, ça peut pas vraiment aller plus mal, je suis concrètement au fond du trou. Ces choses-là s'imposent un peu sur ma voie comme des, voilà, des choses qui ne peuvent qu'aller me faire aller mieux. Puis c'est vrai que bon, dans mon entourage familial, c'est vrai que quand on voit quand même quelqu'un s'éveiller à des enseignements philosophiques, de sagesse, se rapprocher de la religion, en l'occurrence, moi, c'est des religions plus que de la religion. J'ai grandi dans la religion catholique, mais au fond, j'étais pas spécialement pratiquant ou relié à cette religion. C'est vraiment toutes les religions, notamment quand même le bouddhisme qui est une religion qui m'inspire beaucoup. Bon, bah, c'est plutôt positif. Votre entourage, là, à ce moment-là, moi, est plutôt assez encourageant. Et là, il y a du coup, voilà, maintenant, il y a ce que faire de ma vie, quoi, qui quand même très vite se pose. Sachant qu'en plus, bon, bah, j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai un peu d'argent de côté, mais pas grand-chose. J'ai pu préserver quand même un petit peu. Bon. Et là, il y a vraiment un choix binaire, quoi. Continuer ou changer. Et le continuer, bah, ça pourrait être recréer un business à Paris, dans le même secteur d'activité. J'ai deux propositions dans le secteur d'activité de concurrents, mais d'amis concurrents qui me proposent de les rejoindre. Donc, en fait, ça va. C'est plutôt positif. C'est que je pourrais tout à fait continuer si je le souhaitais. Ce qui a été important, ça, d'ailleurs, plus tard pour dans la force de mes choix, parce qu'en fait voilà, c'est pas comme si il y avait absolument plus de choix, et donc du coup voilà, il y a comme une vraie démarche, il y a comme une, voilà, quelque chose de très profond qui vraiment m'appelle sur une voie spirituelle, quoi. Et donc il y a ce projet qui se dessine, qui est, et j'emploie le mot projet parce que je le fais un peu comme un entrepreneur, c'est-à-dire que voilà, je suis en janvier 2016 et là je commence à réaliser, bah, en fait, quoi j'ai envie. Et en fait, je réalise qu'il y a tout ce monde-là, ce monde intérieur qu'on ignore, en fait, qu'à l'intérieur, il y a, voilà, des émotions, des pensées, des sensations. Je donne quelques termes comme ça qui paraissent, mais que ça, finalement, constitue notre vie, je dis souvent, on demande souvent comment vas-tu, comment ça va, etc. Ce qui est une question, je me dis souvent, on devrait demander aux gens comment te sens-tu? Parce que finalement, ce qui compte dans notre vie, c'est la seule chose dont on fait l'expérience, c'est l'expérience de comment on se sent, c'est l'expérience, ouais, intérieure. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler avec ce livre, c'est que la vie est avant tout une aventure intérieure. Voilà, et on l'oublie un peu, de surtout à notre époque, qui valorise beaucoup quand même l'image, la représentation, voilà, avec les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs formidables par ailleurs pour plein de choses. Et je les découvre là à travers le livre, et je trouve que c'est des super outils. Mais en même temps, il y a quelque chose de... voilà, on oublie ce monde intérieur d'en prendre soin, et que c'est finalement et donc là, il y a, voilà, j'appelle ça aussi le monde de l'âme, et donc j'ai envie de rentrer dans cette exploration, de voir ce qui se cache derrière, ce qui a toujours sommeillé, ce que j'ai toujours senti, entendu, comme ces petites voix, cette conscience, tout ce vocabulaire qui était un peu abstrait pour moi à l'époque, et j'ai envie de comprendre ce que c'est, de ce qu'il y a, voilà. Et donc là, se présente rien du tout, mais cette pulsion, comme une intuition très forte, où je décide de partir en Amazonie. Voilà, il y a pas vraiment grand chose de là-bas. C'est comme un truc, mais c'est une envie qui naît déjà en de novembre, décembre 2015. Et voilà. Et il se trouve que voilà, comme souvent quand on est dans une volonté forte et qu'elle a quelque chose, qu'elle est juste d'une certaine manière, et ben coup de chance, j'ai des amis qui sont que j'ai rencontrés dans un voyage précédent au Brésil, qui ont le contact d'un chaman là-bas, qui s'appelle Indius, qui a exactement mon âge, 32 ans, qui est lui descendant d'une lignée de chamans de père en fils, et qui m'attire énormément. Quoi. Ce nom Indius déjà me fait rêver dans mon Paris. Il faut imaginer un Paris sous antidépresseurs en décembre, janvier, où il fait dans un froid glacial, où on vient de paumer tout ce qu'on avait construit depuis 12 ans. C'est juste ces quelques lettres à poser. Indius, l'Amazonie, me fait rêver. Et donc, voilà, je le contacte et je fais un Skype avec lui début janvier. Il a Skype, non ? Il a créé une communauté en fait ouverte aux Occidentaux pour justement diffuser les savoirs de la forêt. Et là, il me dit que le mois de janvier est justement un très bon mois pour venir. Et donc le 23 janvier 2016, un mois après la vente de Régine, je suis dans l'avion et je pars pour l'Amazonie.
Et qu'est-ce qu'il dit du coup ton entourage quand il te voit partir en Amazonie?
C'est un peu bizarre parce que c'est vrai que je me souviens, je fais une petite fête avant de partir, une sorte de petite fête d'adieu et personne commente vraiment. C'est assez bizarre parce que les gens, il y a comme un truc où ils trouvent que c'est un peu bizarre peut-être et en même temps ils disent bon le mec de toute façon là il est quand même pas bien, on peut pas tellement lui dire quoi que ce soit, c'est pas vraiment l'heure de faire des commentaires de toute façon. Mais c'est juste que l'Amazonie, parce que j'avais ce truc, hein, je l'ai dit, du voyage, qui était un truc vraiment... je partais beaucoup, très loin, longtemps, seul, souvent, dans ces pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, où vraiment je trouvais beaucoup d'apaisement, et surtout d'ouverture d'esprit, de rencontres, d'enrichissement, enfin c'était... voilà. Et donc là, c'est juste que je vais dans un... C'est un voyage un peu plus lointain, un peu plus profond. L'Amazonie, c'est quand même particulier, mais bon, c'est l'Amazonie brésilienne, donc voilà, j'ai quand même... un peu voilà des petits repères là-bas. Je sais que de là-bas après si je veux voyager je peux voyager dans le Brésil. Le voyage c'est aussi comme un muscle, hein, ça s'apprend, c'est comme tout en fait. J'ai appris aussi au cours de toutes ces années, hein, à voyager seul, donc je commence un peu à savoir comment ça fonctionne. Donc je suis dans cet avion, je fais 24 heures de vol, 3 escales, j'arrive là-bas et là je me souviens de ça, c'est un moment aussi que j'immortalise dans ma mémoire. Je suis sur en haut de l'avion, là, en haut des marches là, qui mènent au tarmac là, quand je sors de l'avion, et là il y a vraiment je sais pas, je vois la forêt là, derrière le petit aéroport local là, de Santarém, qui est le nom du bled là-bas, et là je sais pas, il y a vraiment une montée de... Non pas d'adrénaline là, c'est un peu différent, mais juste voilà cette excitation de l'inconnu, de l'aventure, de me dire voilà c'est vraiment le point de départ là d'une nouvelle vie quoi. Je le ressens très très fortement. Et voilà, et donc là je rentre dans tous ces rituels chamaniques, j'arrive, bon je vois que c'est quand même un monde très différent de celui que je connais, je vois que mes petits mécanismes habituels parisiens n'opèrent pas vraiment. En plus, on voit la langue officielle, c'est l'anglais. Mon anglais est assez moyen à l'époque. Et donc, concrètement, voilà, je rentre un peu dans la vie de la communauté. C'est très dur, hein, parce que c'est voilà, un changement d'habitude, d'alimentation, changement de rythme de vie, la solitude. Il y a les gens de la communauté, mais bon, au bout de, c'est pas non plus des gens que je connais bien. Il y a la barrière de la langue, parce qu'on se parle, on peut pas se parler en français non plus. Mais bon, je dors sur un hamac, c'est aussi, c'est au départ.
Tu casses toutes tes codes, quoi.
Ouais, vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là où, voilà, vraiment, c'est nouveau. Mais en même temps, je me dis que c'est ce que j'ai envie de vivre. Ça me paraît bien, ça me paraît juste. Voilà. Et puis après, évidemment, cette cérémonie d'ayahuasca, qui est cette plante médicinale, cette plante sacrée, que les indigènes utilisent pour soigner le corps, l'esprit depuis des milliers d'années. Je précise que c'est une plante qui n'est pas légale en France et dans la plupart des pays d'Europe, donc il faut voyager pour la consommer. C'est un breuvage qui donne des visions qui permet de reconnecter à des mémoires très enfouies. Donc c'est aussi ce que je recherche, de reconnecter à mon enfance, à ce divorce notamment de mes parents. Quelle était la vie du petit garçon romain de 0 à 3 ans? Des gens disent qu'ils connectent aussi à des mémoires de vie antérieure. Voilà, c'est une expérience extrêmement puissante, très profonde, qui est voilà, juste un changement total de paradigme, un changement de, je sais pas, c'est comme aussi un moment de vérité incroyable. Ça dure 8-10 heures à peu près, ça se fait à la pleine lune. Voilà, on est là donc en haut sur un rocher, il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour cette cérémonie. Voilà, j'en parle beaucoup plus dans le livre et là je la décris avec plus de détails. Et voilà, c'est quelque chose d'assez magnifique qui n'est pas pour tout le monde, hein. Pour autant, faut vraiment ressentir le besoin. C'est quelque chose, faut faire attention parce que ça peut vraiment créer des changements de vie très importants. Donc il faut quand même le savoir.
Ouais, faut être prêt à, aller rencontrer sa zone d'ombre et ouais. Et sa zone de lumière aussi. Mais il faut être prêt à ce que ça tangue parce qu'en effet, ça peut changer une personne, mais en même temps, en se reconnectant vraiment à qui t'es. Mais quand tu te reconnectes à qui tu es, ça peut faire du bazar autour.
Exactement. Et donc, bon, moi, la chance que j'ai, c'est que quelque part, j'ai plus d'attachement, plus d'engagement, j'ai tout, voilà, tout perdu. Je suis, on va dire, voilà, très libre. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut être une expérience. C'est une expérience qui est quand même très remuante, mais ce qui peut être compliqué avec ce type d'expérience, c'est que voilà, des gens décident de divorcer le lendemain matin, quoi, concrètement. Mmh. D'ailleurs, il nous est demandé de ne pas prendre de décisions importantes dans les semaines qui suivent l'expérience. Donc, d'autres personnes changent de job. Enfin, ça peut être vraiment des. Donc, il faut quand même en être conscient avant d'y aller. Faut savoir que ça peut voilà créer des vrais chamboulements dans une vie, quoi.
Et donc là, du coup, tu restes combien de temps en Amazonie?
Je reste à peu près 2 mois dans cette communauté. Puis après, je continue à voyager un peu dans la forêt. Je vais chez des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et après, en fait, je reste quand même vraiment dans la jungle ou plutôt dans la savane brésilienne. Parce qu'après, je vais donc au Brésil dans un autre endroit qui s'appelle Alto Paraíso, un endroit magnifique. Où là, je fais la rencontre, il y a un ashram et je fais la rencontre d'un maître spirituel. C'est vraiment le terme, hein. C'est un vrai maître spirituel qui est brésilien et qui appartient à une lignée de maîtres d'un ashram du nord de l'Inde, à Rishikesh. Et donc, qui est dans tous ses enseignements du yoga, mais je parle du yoga, évidemment, de la pratique du yoga, mais de toute la philosophie du yoga. C'est un enseignement spirituel mais libre, hein, qui n'est pas affilié à aucune religion, qui est quand même inspiré des religions bouddhistes et hindouistes. Et là, je découvre vraiment, voilà, c'est une rencontre très importante pour moi. C'est une personne que je trouve d'abord magnifique, très inspirante, sorte d'alliage entre force et douceur. Et pour moi, c'est assez nouveau comme type d'homme ayant grandi dans ce monde occidental. Très basé sur le culte de la performance, de l'urgence, de toute démonstration de force qu'on connaît ici, qui souvent se transforme en agressivité, en ce genre de rapport humain. Et là, je découvre un homme très différent de ça, quoi, qui est au contraire dans un sage, quoi. Un sage, il a une longue barbe blanche, il est vraiment quelque chose de très apaisant à son côté, il parle très doucement, il parle très lentement, laissant beaucoup d'espace entre les mots, entre les phrases, il est assis dans son fauteuil. Enfin, on a juste envie de rester là, quoi. Et puis, j'ai aussi envie, je vois en fait à travers cette rencontre, au-delà juste de l'envie d'être proche de lui, mais qui déjà, je pourrais suffire. Hein, mais il y a aussi quelque part, je prends conscience qu'il peut très vite être un guide sur la voie, parce que finalement, bah, ce chemin spirituel, c'est une voie spirituelle dans laquelle il y a plein de chemins possibles. Il y a le chemin de la méditation, le chemin du yoga, le chemin du chamanisme, la voie le tantra. Il y a vraiment, c'est plein de subtilités sans trop rentrer dans le détail ici. Et je développe un petit peu ces différentes sagesses dans le livre, mais de manière assez compréhensible. Voilà, il y a ce truc où voilà, il est comme une lumière dans l'obscurité et je me dis voilà, je vais suivre cet homme tout simplement. C'est la seule chose que j'ai envie de faire. Il a créé une sorte de y a un enseignement qui s'appelle Chemin vers le cœur en français, qui est donc tout simplement qui a vocation à reconnecter les gens à leur monde intérieur, à leur essence, à la voix du cœur. Mmh. Et donc il a créé c'est comme une sorte d'école de spiritualité, de psychospiritualité, parce qu'il était psychothérapeute avant de devenir maître. Et donc voilà, il y a tout ce cheminement qui se fera avec lui. C'est des retraites, des workshops, ça ressemble vraiment un peu à une école.
Voilà. Et là, du coup, à cette époque-là, tu vis de quoi ?
Ouais, bonne question. Entre-temps, je suis revenu à Paris et j'ai vendu, en gros, j'avais des meubles, des vêtements, un peu de valeur, toutes sortes de choses. J'ai tout vendu, voilà. J'ai aussi eu un peu de chance parce que j'avais investi dans une start-up d'un copain où j'avais pas beaucoup d'argent, mais où je m'étais dit, voilà, il y a une chance sur 10. Et en fait, à ce moment-là, la start-up se vend, donc ça me donne aussi un peu plus d'argent. Concrètement, j'ai assez pour avoir à peu près 4 années devant moi de voyage. Donc 4 années, évidemment, dans des pays où la vie coûte aussi moins cher, comme l'Inde, le Brésil, etc. Et donc, je le fais vraiment. J'investis dans cette recherche intérieure, dans cette quête spirituelle, vraiment un peu comme un projet entrepreneurial, quoi. C'est-à-dire que voilà, je sais que j'ai tant, ça peut me permettre de voyager tant de temps, et je me fais comme un plan. Après, je me laisse aussi porter et guider, quoi. Mais ouais, il y a quand même, voilà, il y a la notion quand même de projet, quoi. Ouais.
Et à partir de quand, du coup, tu commences à te dire, à imaginer la suite professionnelle?
Et ben, en fait, que quand j'ai moins d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrive un peu à la fin de mes ressources. Et là, je décide de rentrer, en Europe. J'hésite à rester au Brésil, mais bon, pour pas mal de raisons, ça le fait pas, ça marche pas, quoi. C'est compliqué pour plusieurs raisons. J'ai aussi fait la rencontre d'une femme dans ce cheminement qui a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne, qui était une ancienne trader, voilà, qui est devenue ma femme, en fait. On n'est pas mariés, mais voilà, on a un enfant ensemble, un fils de 2 ans. Et on fait une bonne partie de ce cheminement ensemble. En fait, je la rencontre assez tôt dans le chemin et dans les enseignements. Et donc, voilà, on décide de s'installer au Portugal, à Lisbonne, qui est un peu, je t'avoue, le seul endroit où je me vois vivre après ce voyage qui a été quand même très transformateur, parce que il y a l'Amazonie, il y a le Brésil, et puis donc après, pendant les années qui suivent, jusqu'à 2018, et puis en fait jusqu'à 2019, parce que je continuerai à voyager jusqu'à cette époque, il y a beaucoup de temps passé en Inde aussi. Donc voilà, notre vie, c'est vraiment, voilà, pendant ces 3-4 années, c'est vraiment, se passe entre le Brésil et l'Inde. Avec, quand on fait une escale en Europe, on est souvent au Portugal, et donc je découvre le Portugal, je vois à quel point ça peut être un pays qui peut vraiment correspondre à ce nouveau rythme de vie, à ces nouvelles aspirations que j'ai. Et donc voilà, on s'installe à Lisbonne.
Génial. Et là, du coup, c'est quoi les projets pour la suite?
Et ben, en fait, rapidement, il y a cette envie de, je sais pas, déjà, je suis un peu plus, je suis plus trop comme maintenant, voilà, comment je m'appelle, ça m'a quand même beaucoup, tout ça, chamboulé, changé, etc. Et donc, il y a, voilà, cette envie d'écrire qui s'impose. J'avais commencé, j'avais un peu écrit, un journal de voyage, un journal intime pendant une partie du voyage au début, donc j'ai quand même gardé ces carnets de bord. J'ai noté aussi pas mal de choses dans les enseignements, donc j'ai plusieurs carnets comme ça, voilà, parce que dans les ashrams en Inde, au Brésil, avec ce maître, on est quand même beaucoup aussi assis à écouter le maître tous les matins. Il y a ce qu'on appelle un satsang, qui est le talk du maître, où il parle pendant 1h30, 2h à peu près, où après on médite longuement. Il y a aussi beaucoup de chants, c'est très beau, les musiques là-bas. Mais donc du coup, j'ai aussi pris pas mal de notes sur des choses qui me paraissent hyper intéressantes, passionnantes. Et donc, je me vois pas non plus écrire un livre simplement d'enseignement qui partage ces enseignements. Donc en fait, je décide de me lancer, voilà, dans l'écriture de cette histoire, de cette transition de vie. Et j'écris donc ce livre, Humain, du monde de la nuit à l'Amazonie, qui est donc maintenant publié chez Erol en France, donc depuis mars 2022, et qui a donc, voilà, qui est un peu le début d'une nouvelle aventure professionnelle, puisque donc voilà, maintenant je donne différentes conférences, des talks, je prépare l'organisation de retraites pour justement partager avec des personnes qui n'auraient pas la possibilité de partir si loin et si longtemps dans des voyages, et ben voilà, de bénéficier de ces enseignements, et une retraite d'une semaine, ça peut déjà être très transformateur. Donc ça, c'est le projet en cours, et il y a surtout un autre projet en cours qui est lié à ça, qui est la création d'un lieu, d'un centre, d'un écolieu, qui là, je pourrais en parler prochainement davantage, j'espère, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore confirmé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment le projet de pouvoir avoir un lieu et d'accueillir des personnes d'Europe ou du monde entier et qui peuvent.
Du coup, au Portugal.
Au Portugal.
Ouais.
Où il y aura donc la proposition de tout type de d'enseignement à travers des retraites, des workshops, un festival, des journées de d'initiation, de connexion à la nature, voilà, aussi recevoir différents sages, je les appelle sages, hein, c'est un mot un peu plus large, voilà, qui pourront donc partager tous ces enseignements à un public européen.
Génial.
Voilà.
Comment t'écoutes ton intuition ?
Eh ben, écoute, c'est un travail de tous les jours. C'est une intuition, je l'écoutais pas beaucoup avant. J'y suis de plus en plus sensible. Je suis de plus en plus à l'écoute de cette intuition. C'est en respirant. C'est-à-dire que très régulièrement, je prends des pauses dans mes journées, chose que je n'ai pas su faire dans le passé, pour respirer. Juste, ça peut être une minute sur une chaise de bureau, cinq respirations profondes, lentes, pour se reconnecter à soi. Il y a plein d'images qui apparaissent, il y a plein de... Voilà, ça peut nous reconnecter. Et puis, bon, après, moi, j'ai une pratique quotidienne, tous les matins, de yoga, méditation, qui est assez courte. C'est 10 minutes de yoga, 5 minutes de méditation. Donc, c'est assez court, parce que c'est, voilà, c'est adapté à la vie occidentale, parce que maintenant, j'ai une vie active, et j'ai plein de projets, et voilà, et voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à les faire, mais dans un rythme, évidemment, qui n'est pas le rythme d'avant. Donc, de les prendre un par un, surtout, voilà, d'écouter cette intuition, et surtout, d'être relié à soi, d'écouter vraiment mes ressentis profonds, voilà, qui sont vraiment en fait le meilleur guide, voilà, dans notre vie en général, dans notre vie privée, mais aussi dans notre vie professionnelle.
Et par rapport au burn-out, est-ce que depuis ton burn-out initial, est-ce que tu as eu des moments où il t'a retitillé ?
Pas vraiment. Je me suis jamais remis dans des situations. J'ai encore, et je tiens à le dire, des moments de d'anxiété, d'insatisfaction, évidemment, bien sûr. Donc, je peux encore avoir des moments, voilà, de stress, de soucis. La méditation, ça m'aide, d'ailleurs, mais voilà, ça ne règle pas tout non plus. Mais voilà, il y a comme vraiment, au contraire, il y a même vraiment une vigilance à vraiment ne pas me remettre. Voilà, et peut-être d'ailleurs, ça m'arrivera de nouveau. Je ne sais pas. En tout cas, jusqu'ici. Ouais, j'ai pu traiter les choses une à une, leur donner du temps, du soin, comme ce livre pour lequel j'ai vraiment pris le temps, et là, ces prochains projets, voilà, que j'essaie de traiter avec soin.
Ouais. Comment tu célèbres tes réussites ?
Pardon, excuse-moi.
Comment tu célèbres tes réussites ?
Bah, je sais pas, par exemple, le livre, c'est vraiment quelque chose de très intérieur, de très profond, de très solitaire, parce que c'est vraiment dans mes méditations, voilà, je peux prononcer une intention, on associe ces pratiques parfois avec ma compagne de rituels, on fait souvent des rituels autour du feu, des choses qu'on fait dans notre quotidien. Bon, voilà, c'est un peu nos petits trucs de vie qui nous permettent, voilà, de c'est comme vraiment, c'est honorer la vie, quoi. Dans chaque instant, à chaque moment, il y a quelque chose de bien qui se passe. Et ben voilà, célébrons-le. Et nous, ben, on a une manière un peu, on va dire, je l'emploie avec des guillemets, spirituelle de le célébrer. Donc ça peut être ce type de rituel. Et donc voilà, c'est un peu différent d'avant, où avant ça aurait peut-être été plus extérieur. Voilà, c'est aussi cette prise de conscience que la joie est un phénomène intérieur. La joie se partage, se vit en lien avec les autres, mais elle est avant tout une expérience intérieure. Ce qui est un peu différent du plaisir, qui est à l'inverse une expérience plutôt extérieure, parce que le plaisir repose sur les sens. Et les sens, ce sont toutes ces portes d'entrée qu'on a dans le corps et qui donc sont en fait, c'est à la frontière de l'extérieur et de l'intérieur. Mais voilà, il y a cette notion. Voilà, donc c'est vraiment la joie, c'est plutôt ce bien immatériel qui vraiment peut jaillir à tout instant. Il peut même y avoir de la joie dans des moments douloureux de la vie. C'est quelque chose de qui est très subtil, la joie, et voilà. Donc c'est aussi ça, c'est une vie que j'essaie d'orienter un peu plus vers la recherche de la joie que la recherche des plaisirs. Et je ne dis pas que la recherche des plaisirs est mal, elle est très bien aussi. C'est simplement que les plaisirs, on peut se retrouver dans des addictions, la recherche de ces plaisirs et justement de la stimulation des sens, puisque c'est par ça que passe le plaisir. Et donc on voit bien que quelque chose va, le sucre, le sexe, la nourriture en général, enfin toutes choses comme ça, et ben du coup on peut rentrer dans des comportements un peu addictifs forcément, mais sauf qu'en fait on réalise que le plaisir c'est souvent quelque chose d'éphémère, là où la joie c'est un bien durable et très profond. Donc voilà, donc c'est aussi un travail, hein, c'est pas inné, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai juste appris à cultiver un peu plus ces choses-là, mais voilà, ça reste un travail quotidien pour nous. J'aime bien parler aujourd'hui de spiritualité intégrée, parce que finalement toutes ces expériences, toutes ces pratiques, c'est bien, mais c'est bien à partir du moment où elles sont intégrées à une vie concrète, une vie matérielle, une vie avec dans un quotidien. Ouais. Et à un moment donné, c'est vrai que je m'étais un peu demandé si je tombais pas dans une sorte de collection d'expériences spirituelles, quoi. Et en fait, voilà, c'est important d'intégrer tout ça.
Ouais, de pouvoir avoir une vie entre guillemets, enfin en tout cas dans notre vie occidentale, de pouvoir intégrer tout ça et pour pouvoir se sentir à l'aise et se respecter tout en ayant entre les codes de la vie, les codes de la vie externe, sans non plus rentrer dans des cases.
Exactement.
Ouais, ouais. Ce qui est un vrai enjeu.
Bah ouais, totalement. Ouais. C'est vraiment cet équilibre qu'on recherche au quotidien. C'est d'allier l'action toujours, hein, c'est important. Il n'est pas question de rester sur son canapé, et la contemplation. Mais voilà, c'est avec voilà un dosage toujours, d'être vigilant à ce dosage.
Je me dis souvent c'est un sujet, tu vois, ma fille elle a 8 ans et parfois elle dit des trucs qui se disent pas en fait parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense, et donc d'un côté t'as pas envie, enfin j'ai pas envie de la brimer parce que c'est bien de dire ce que tu penses, mais c'est lui faire comprendre que parfois tu dis des choses, ça peut faire de la peine aux personnes, et du coup c'est un vrai, je trouve, enjeu de se dire. Pour nous, parents, qui avons du coup eu cet éveil de conscience, de dire comment tu fais pour que ton enfant reste lui-même tout en étant heureux dans l'environnement et dans lequel il grandit, quoi.
Ouais, 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 totalement. Ouais, bah c'est aussi c'est un bon exercice de l'inculquer à nos enfants, parce que du coup, ça nous rappelle nous-mêmes, voilà, en voyant ce qu'on aimerait inculquer à nos enfants. Ça peut aussi être bon pour nous, en fait.
D'ailleurs, je lisais hier soir les dernières pages que t'as écrites sur la lettre que t'as écrite à ton fils. Je vais pas la lire. J'invite les gens à lire du coup ton livre Humain et lire la lettre à Benicio, parce que quand j'ai lu le truc, je me suis dit waouh. Enfin c'est je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire à mes enfants. C'est vraiment très très chouette. Tu parles, ouais, de la pardon, de la singularité. Tu vois ce que je te disais hors micro. Moi aujourd'hui. Avec mon projet Pourquoi pas moi, j'accompagne les personnes à écouter leur petite voix grâce au podcast et aux témoignages. Mais pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai un programme pour les aider vraiment à découvrir leur raison d'être, qui ils sont. Et justement, j'ai des chapitres dédiés à la zone d'ombre, à la singularité. Parce qu'en fait, si tu sais pas qui tu es, en fait, si tu n'acceptes pas ta zone d'ombre, enfin, tu ne la connais pas et qu'après tu ne l'acceptes pas, jamais tu seras bien. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que plus tu vas essayer de cacher ta zone d'ombre, plus elle va vouloir ressortir et elle va cacher ta lumière. Et du coup, vraiment, j'ai envie de dire aux personnes aujourd'hui, découvrez votre zone d'ombre pour pouvoir l'accepter et faire en sorte que ce soit votre zone de lumière qui prenne toute la lumière, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu la mécanique de l'ombre, et c'est vrai que dans notre culture occidentale, on grandit avec cette idée que voilà, il faut être performant, faut être fort. Donc ça nous pousse pas à regarder ce monde intérieur et en aucun cas à regarder les zones d'ombre, parce qu'en fait, on a juste envie, évidemment, c'est tout ce qui est désagréable, évidemment, n'est pas très populaire.
C'est ça.
Et donc concrètement, on est souvent dans le déni de ces zones d'ombre, on réprime ces émotions négatives qui en fait on peut aussi souvent du coup somatiser, c'est-à-dire qu'en réalité il y a plein de choses, hein, les émotions négatives majeures que sont tristesse, colère et peur font partie du quotidien de chaque être humain sur Terre, même des plus grands yogis. C'est quelque chose que c'est important de le vérifier, quoi. C'est que même les grands yogis ont affaire à ça. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est notre condition humaine. Voilà. Après, on peut travailler dessus, etc. Mais voilà. Et en fait, on voit bien que voilà ce que l'on nie nous lie, ce que l'on réprime nous déprime, parce qu'en fait, c'est là, ça marine en nous et c'est quand même là. Ce que l'on somatise ne fait que sommeiller en nous et se réveillera tôt ou tard. Il vaut mieux inviter, accueillir, embrasser, je pourrais dire, ces émotions négatives, les ressentir, alors sans non plus tomber dans l'extrême inverse, hein, qui est de se complaire dedans et de rester dedans, mais voilà.
C'est un truc que j'avais découvert, tu vois, au moment du confinement où j'étais vraiment pas bien parce que ça m'a tétanisé de peur. Et en fait, j'avais assisté à une conférence de Modankawa qui disait, en fait, dans l'émotion, c'est quelque chose qui passe. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, c'est comme tu disais, c'est le fonctionnement humain. Par contre, en fait, il y a une différence entre l'émotion et l'état. Et on est responsable de se dire, en fait, oui, il m'arrive une super merde en ce moment. Je suis en colère de ça parce que la suite me fait peur. Mais en fait, j'ai le choix. Soit je reste dans cet état de peur et de colère et en gros, je me bouffe de l'intérieur. Soit je me dis, OK, si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Et que comment je fais pour me dire que je sors de ce truc-là, être acteur et en mouvement. Et tu vois, et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être victime et enclencher dans une dynamique et sortir de tout ça parce que sinon, tu passes ta vie à être mangé. Et en fait, plus tu te voiles la face et plus tu vas et moins tu seras heureux et moins tu vas aller vers qui tu es, quoi.
Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a une sorte de posture juste à avoir face à ça, c'est-à-dire sans encore une fois se complaire dans ces émotions négatives, sans les laisser nous envahir, la nuit des temps. C'est juste, voilà, parfois ça peut être une minute, une heure, une journée. Si c'est un truc très très douloureux, très profond, ça peut nous mettre peut-être même mal pendant quelques semaines, peut-être même pourquoi pas quelques mois. Mais je pense que c'est sain de le vivre et de l'accepter, parce que sinon, si on le réprime, en fait, ce que ça crée souvent, on voit souvent, c'est ce qui crée des comportements. Tous ces comportements qu'on voit addictifs, en fait, c'est comme une espèce de sa vie en nous. Et donc, en fait, c'est là où souvent, on se réfugie dans la drogue, on se réfugie dans l'alcool, peut-être avant la drogue. D'autres vont se réfugier dans l'hyperaction. Moi, je sais qu'il y avait ce truc-là, quoi. Il y avait des choses qui marinaient en moi qui étaient vraiment pas très saines, en fait, de l'enfance, de l'adolescence et tout. Et du coup, voilà, je trouvais refuge dans cette hyperaction qui m'empêchait de penser, qui m'empêchait de ressentir, qui quelque part m'anesthésiait. Mais à un moment donné, en fait, on est rattrapé, quoi.
Ouais, et je partage complètement. Et en fait, on est tous. Enfin, tu vois, je lisais un truc cette semaine en mode être fort, c'est savoir être vulnérable. C'est accepter qu'on est vulnérable, qu'on peut avoir des faiblesses. Et en fait, personne n'est fort sans être vulnérable. Et donc, c'est vraiment en effet accepter ce truc de se dire, voilà, je suis vulnérable, je suis faible à ce moment-là, mais c'est ce qui fait l'accepter fait qu'en fait, au final, je vais être fort.
Ouais. Exactement.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Quand j'ai créé cette entreprise là, à 19 ans évidemment, quand je saute dans cet avion pour l'Amazonie à la recherche de la sagesse, quand j'ai commencé les premières lignes de ce livre, c'est peut-être celui-ci le moment le plus pourquoi pas moi que j'ai vécu, parce que voilà, c'est cette notion, et c'est la conclusion du livre, hein, c'est je le dis vraiment en toute humilité à la fin du livre, dans cette lettre dont tu viens de parler que j'écris à mon fils. Parce qu'au fond, voilà, j'en sais rien, je suis son père, mais voilà, j'ai mon expérience, j'ai mon parcours, mais j'ai pas la vérité absolue. Je suis moi aussi un étudiant en chemin, un étudiant de la vie. Et en fait, voilà, c'est ce que je lui écris un moment, je lui dis à la fin de cette lettre, ce à quoi je souhaite t'encourager ici, c'est à identifier tes rêves et les écrire pour mieux les réaliser. C'est peut-être ça le secret d'une vie réussie. Et voilà, c'est se rappeler de nos rêves et de se dire qu'en fait, rien n'est impossible, qu'en tout cas, il faut se mettre en marche, se mettre en musique pour réaliser nos rêves. Et ça, c'est pour moi ce qui me semble être un bon balisage de nos vies. C'est-à-dire, voilà, on peut avoir quelques rêves. Je recommande de les écrire d'ailleurs, vraiment, et de, pour s'en rappeler, parce que la vie, elle passe. Et du coup, ça peut, voilà, ça peut créer un peu le chemin.
Ah, mais. Complètement, c'est marrant parce que il y a suite, je te parlais tout à l'heure de Pedro Correa hors micro que j'ai interviewé. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu racontes qui me font penser à Pedro. Et suite à l'interview de Pedro, en fait, qui me disait justement qu'il fallait noter ses rêves et tout, j'ai créé un petit cahier qui s'appelle le cahier ta petite voix, en fait, qui est pour les enfants. Et l'idée, c'est chaque année de marquer quels sont leurs rêves et qu'est-ce qui leur plaît. Parce qu'en fait, j'ai compris que c'était la douce mélodie de leur petite voix. Et si, en fait, ton enfant t'a toujours expliqué qu'il rêvait de trucs artistiques et qu'il t'explique à 18 ans qu'il veut faire des études d'ingénieur, bah, tu pourras lui dire, est-ce que t'es vraiment sûr de toi? Et en fait, tu vois, un truc qui me surprend, c'est que souvent, quand j'interviewe des personnes, ils sont pas capables de se rappeler quels étaient leurs souvenirs, leurs rêves d'enfant. Et du coup, je me dis, voilà, vraiment, j'ai envie d'inviter toutes les personnes à se dire, OK, demandez à vos enfants c'est quoi ce qu'ils aiment, c'est quoi leur rêve et le noter parce que c'est un cadeau formidable à leur offrir quoi.
Ouais, et les rêves d'enfants sont évidemment un indice un super indice pour nous aider à faire notre chemin, mais les rêves d'adultes sont bien aussi.
Bien sûr.
Parce que les rêves d'adultes ont aussi cette notion de rêve avec peut-être un peu plus de conscience, un peu cette notion d'expérience, parce qu'un rêve qu'on forme à l'âge adulte, qui peut aussi apparaître, hein, la vie, c'est voilà, c'est aussi ça, on déroule une bobine de fil sans trop savoir aussi, quoi. Et donc, un rêve qui vient à 25, à 35, à 45 ans, pourquoi pas, quoi. Il faut.
Ah bah, tu prêches une convaincue, tu vois, là, ce que je disais aussi hors micro, j'ai fait un TEDx, là, il y a un mois et demi, c'était un rêve. Et tu vois, il y a un moment où tu te dis, OK, j'ai ce rêve depuis plusieurs années. Avant, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir raconter. après, je me suis dit, OK, mais en fait, ouais, ce rêve, tu te mets en chemin. Et en effet, des rêves. Et là, tu vois, quand j'ai fini TEDx, je me suis dit, OK, c'est quoi mon rêve d'après? Parce qu'en effet, les rêves, ça fait avancer dans la vie, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
C'est quoi pour toi la réussite?
Réaliser ses rêves. Quels qu'ils soient. Tu vois, je donne un exemple hyper, voilà, très concret, peut-être, voilà, volontairement, peut-être un peu, qui sort un peu du cadre là, mais si, je sais pas, un homme veut devenir femme, c'est quelque chose d'immense, quoi, de qui ressent peut-être au plus profond de lui-même, changer de sexe, c'est quelque chose quand même voilà, je sais pas si d'ailleurs à notre époque il y a quelque chose de plus fort comme transformation. Et ben voilà, si c'est une réussite. Donc c'est pas que sur le plan professionnel, voilà, la réussite.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Romain de 6 ans dirait s'il se voyait aujourd'hui?
Je pense qu'il est assez content. Il l'était vraiment pas pendant quelques années, de 25 à 30 ans, où vraiment il se sentait très éloigné de ce qu'il était devenu, je m'en souviens. D'avoir fait des sessions justement de... Il y avait quand même une vraie scission. Et là, je pense qu'il se sent vraiment raccord. Il sent que c'est cohérent. Il sent qu'il y a comme... Voilà, comme si le Romain adulte était revenu dans les rails du Romain enfant. Ouais, il est content et peut-être un peu fier de ce qu'il est devenu, de ce qu'il est aujourd'hui.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi?
Le renoncement majeur là de cette décennie de 30 à 40 ans là, j'ai 39 ans là depuis un mois, c'est clairement le renoncement à une carrière. ce qui n'est absolument pas définitif, puisque là, suite à ce livre, je ne sais pas si on peut parler d'une carrière, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'à nouveau créer des projets, et voilà, des projets hybrides, hein, qui soient entrepreneuriaux, mais avec une éthique, des projets qui ont du sens. Il y aura sans doute l'écriture d'un second livre d'ici quelques années. Mais voilà, c'était quand même un renoncement important parce que c'est un âge où concrètement tout le monde est dans une phase d'émancipation professionnelle, d'émancipation financière. Alors voilà, j'ai pu me le permettre, mais quand même, voilà, c'est d'avoir renoncé à voilà à progresser dans cette voie aussi que je voyais moi un peu comme une forme d'accumulation, voilà. C'était ça le gros renoncement. Et je pourrais dire qu'avant, de 20 à 30, le plus grand renoncement, c'était le renoncement qui m'a d'ailleurs rattrapé, hein, le renoncement à une vie, à la légèreté de la jeunesse, quoi. Ça a été quand même un vrai renoncement. À 19 ans, 20 ans, 21, 22, bon, après, voilà, tout le monde commençait à travailler plus ou moins. Mais c'est vrai que, voilà, de 20 à 25 ans, c'était quand même un vrai renoncement, quoi.
Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Il y en a plusieurs, mais l'entrepreneuriat, l'écriture de ce livre, c'est plus des challenges, mais c'est quand même des vraies difficultés. C'est pas des difficultés au plan vraiment au plan personnel. C'est probablement la plus grande difficulté, c'est quand même, ça reste quand même la perte de toutes ces entreprises en 2015 où quand même tout s'effondre, c'est ma colonne vertébrale qui se délite quoi, complètement. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est quoi tes peurs?
Alors j'ai une peur naissante depuis que je suis devenu père, vraiment. J'ai une conscience écologique assez forte qui est née au cours de ces années, notamment voilà en étant beaucoup en Amazonie, dans les forêts, au contact de ces tribus, avec aussi la plante ayahuasca qui crée quand même quelque chose d'un lien direct à la nature. Mais là, c'est vrai que mon fils qui est né en 2020 va être ici jusqu'en 2100. Et 2100, c'est vrai que c'est un peu apeurant quand on voit là où on est, ce qu'on dit sur le climat. J'ai parfois des vagues. En plus, je vis au Portugal. Parfois, il peut faire un peu chaud, un peu sec. J'ai des peurs, comme je sais pas. J'ai des visions parfois que s'il y a, ça serait pas la fin du monde. Je crois vraiment que l'humanité. J'ai confiance en l'humanité qu'elle a toujours trouvé des ressources pour affronter ce qu'elle avait à affronter. Donc ça, je suis assez confiant. Mais j'ai juste très peur qu'il passe par une phase de difficulté quoi, que la Terre entière avec la surpopulation, hein, la croissance démographique qui est quand même adossée à l'enjeu écologique qui est un problème majeur, hein, parce qu'en fait c'est surtout ça la raison de fond, c'est la croissance démographique. Donc voilà. J'ai juste parfois je me dis s'il y a des, je sais pas, je vois des grandes vagues de sécheresse où il faut migrer. Il y a quand même un rapport du GIEC qui dit là, qui vient de sortir, qui est cet organisme scientifique précis, enfin voilà, qui a fait des études, qui dit que d'ici justement la fin du siècle, mais en fait un peu avant, hein, il y aurait 3,5 milliards d'individus qui devraient migrer parce qu'ils ne pourraient plus vivre là où ils vivent. Voilà. Quand on voit comme avec quelques millions de migrants là, on ne sait pas comment gérer, qui arrivent en Europe dans les dernières années, 3,5 milliards d'individus, on ne saura pas comment faire. Je veux dire, et ça, c'est des choses voilà, qui peuvent me faire un peu peur.
Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
De mon fils. De chaque nouveau mot qu'il apprend, de... il a un âge là qui est très particulier que je découvre. Il a 2 ans et 3 mois et là c'est le début de voilà, il commence à parler, à s'exprimer. Donc chaque chose qu'il dit, il y a une sorte d'émerveillement. Voilà, et mon fils est de ce livre et c'est que ce livre il est dédié à mon fils. Je le conclue par cette lettre à mon fils. L'envie d'écrire, elle s'est vraiment matérialisée au moment où ma compagne est tombée enceinte. Donc c'est vraiment deux, voilà, je les mets un peu ensemble, quoi. C'est deux mises au monde qui sont venues simultanément, et donc voilà, c'est vraiment de mon fils et de ce livre.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croiserais là demain et qui te dirait que tu n'en es là que grâce à de la chance?
Je saurais pas trop quoi lui dire parce que j'ai quand même j'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance, j'ai eu c'est vrai que voilà, je l'ai dit au début de l'interview, je suis né dans un milieu privilégié, c'est vrai, je le renie pas, et ça m'a évidemment aidé à aussi à prendre ces risques, à remettre les choses en jeu clairement, mais pour autant me suis beaucoup confronté à la douleur, à la souffrance, probablement plus que d'autres, hein, qui n'ont pas justement peut-être ces chances que j'avais, mon plan, ouais, d'une sorte de sécurité matérielle, hein, qui d'ailleurs est relative, hein, parce que aujourd'hui il est quand même, je dois gagner ma vie, etc., hein, je tiens à dire. Donc voilà, la chance, et surtout que tout ça, en fait, ce que je le dis souvent là dans différentes prises de parole, effectivement, je l'ai entendu déjà, facile, etc. C'est plus une question de se donner les moyens que d'avoir les moyens. Voilà. Sur le chemin spirituel, je veux dire, en Inde, en Amazonie, on croise des milliers de voyageurs, de pèlerins qui, sont là à la recherche vraiment d'eux-mêmes, et souvent ils alternent entre voyage et petit boulot, où ils pratiquent le work exchange, ce qui leur permet d'être logés gratuitement dans des communautés, un truc que j'ai aussi un peu fait en Amazonie. Il y a pas mal de choses. Après, il y a évidemment plein de retraites qui existent en France, certaines, notamment, je le dis, la retraite Vipassana, qui est sur donation, donc qui me coûte vraiment pas cher, et qui est une très belle retraite de méditation de 10 jours, où on peut on médite 10 heures par jour pendant 10 jours, qui existe dans le monde entier. Il y a des moyens d'accéder à ces chances en se donnant les moyens.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Méfie-toi de l'eau qui dort. C'est un proverbe zen, je sais pas, c'est ce qui me vient là comme ça, mais parce que c'est toute la métaphore de tout ce dont on parlait sur ces notions de somatiser, d'être dans le déni, de réprimer. J'associe ça à l'eau qui dort. Là, c'est peut-être un proverbe qui a été dit à l'époque, je sais plus exactement d'où il vient, c'est peut-être par rapport à l'ennemi potentiel ou quoi. Là, c'est plutôt l'ennemi potentiel, il est à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça. Et donc, l'eau qui dort, c'est ce qui sommeille en nous et ce qui a besoin. Voilà. Et pour éviter que cette eau qui dort jaillisse comme un tsunami, une cascade, comme
un geyser.
Voilà, que devienne un geyser. Et ben, s'en méfier, quoi. Ce qui veut dire, évidemment, lui faire une place.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Je précise que toutes ces questions sont totalement improvisées. Donc, et c'est quand même des questions que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui sont très très profondes. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il me vient de mon père. Et j'ai envie de lui rendre cet hommage à travers ce conseil qui vient en fait, je crois, de Talleyrand. Et mon père me disait souvent à l'époque, dans ces années de 20 à 30, « Hâte-toi lentement. » Qui traduisait souvent par « ne pas confondre vitesse et précipitation », qui était un bon conseil et que je n'ai pas su écouter.
C'est quoi tes prochains défis ?
C'est vraiment de trouver cet équilibre, cette hybridité entre euh, l'entrepreneuriat et le sens entre je donnais un talk là récemment sur le pont entre business et sagesse, ce que j'appelle le business. C'est vraiment ça mon défi aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans cet équilibre et on peut d'ailleurs derrière ça trouver voilà l'alliage de l'action et de la contemplation. C'est voilà avancer, réaliser des projets. Voilà, je suis quelqu'un qui sent bien dans un projet et mais voilà se rappeler de respirer, de me mettre à la hâte lentement.
Ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture ? Alors, avant que tu répondes, moi, je vais évidemment conseiller de lire du coup ton livre Humain chez Erol, qu'on peut trouver bon, dans toutes les librairies. Et s'ils l'ont pas, ils peuvent évidemment le commander. Et toi, du coup, quel serait ce conseil que tu t'aimerais donner de lecture ?
Il y a un livre. Ça me gêne un peu parce que je suis au début là. Mais j'aime beaucoup cet homme. Il a un parcours justement qui pour moi est très hybride. C'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent à Paris justement, qui s'appelle Alain Cogent, qui est donc le fondateur de Cogent. Et à l'époque, j'aimais beaucoup. Il y en avait un justement en face de ma première boîte de nuit. J'y allais très souvent au midi. Ça m'apaisait déjà à l'époque. C'était un petit havre de paix. Et il a eu, en fait, il a perdu sa mère il y a, je crois, quelques années, et donc il a eu voilà, des expériences très fortes de médiumité, c'est-à-dire donc de lien avec l'au-delà et de lien avec sa mère, qui était une figure extrêmement importante pour lui. Hein, il avait vraiment un amour infini pour sa mère. Voilà, je suis juste au début du livre, mais je sens que ce livre est vraiment intéressant parce que c'est l'histoire d'un entrepreneur qui s'est vraiment pleinement ouvert à la spiritualité, au monde de l'au-delà. J'en parle aussi un peu moi dans mon livre de ces mondes et de ces expériences que j'ai eues avec des médiums, etc., qui sont quand même extrêmement, bouleversantes, mais surtout voilà, qui posent vraiment la question de voilà d'une existence d'un au-delà. C'est quand même, pour moi, je comprends pas. C'est quelque chose qu'on devrait on devrait ouvrir le JT tous les soirs avec ces sujets-là. Pour moi, je vois pas autre chose de plus incroyable et de plus important que de parler de ça. Mais bon, c'est encore des sujets qui sont un peu tabous. Mais bref, voilà, Alain Cogent a donc écrit ce livre qui s'appelle Nourriture céleste chez Mama Édition. Et voilà. Encore une fois, je prends une précaution disant que je ne suis qu'au début, mais c'est un livre que je trouve très intéressant dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
J'ai envie de dire merci à la nature, aux arbres, aux forêts, aux rivières, aux fleuves, aux lacs, aux montagnes, aux déserts, au soleil, à la neige, à tous ces éléments magnifiques et magiques, quoi, qu'on ne sait plus regarder. Et c'est là où peut-être l'être humain s'est quand même un tout petit peu perdu en chemin, et je suis presque content que l'écologie soit l'enjeu du siècle actuel, parce que moi j'ai appris vraiment, voilà, à travers ce parcours, à redécouvrir, à renouer avec cette nature magnifique qui parfois me transcende, tout simplement m'apaise, voilà, et j'incite chacun, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour renouer avec la nature, on a tous la chance en France ou même en Europe de vivre dans des pays où on a tous à côté de chez nous, à 5 minutes, 15 minutes ou une heure maximum, un lac, une rivière, une forêt, un bout de nature. Et voilà, j'incite chacun à se trouver son petit bout de nature. Ça peut aussi être un petit jardin qu'on a chez soi, par exemple, mais voilà, et à en faire un peu son temple, son lieu de recueillement, son lieu justement pour se rappeler qui il est, pour se ressourcer. Si chacun faisait ça à l'échelle de l'humanité, si chacun prenait, ne serait-ce que, je sais pas, c'est pas forcément tous les jours d'ailleurs, mais ça peut être, si c'est à une heure de chez soi, ça peut être juste le week-end, on peut aller, voilà, passer quelques heures dans la nature. bah, je pense que voilà, l'humanité tout entière se sentirait mieux, irait mieux, que ça pourrait faire progresser beaucoup de choses. Ça nous permettrait par ailleurs d'affronter ce défi écologique qu'on a, voilà, parce que c'est juste en aimant cette nature qu'on va la sauver, et nous sauver par la même occasion. Parce que je rappelle que c'est en cette nature, c'est notre nature. On est tous très liés. Voilà, et il y a ce philosophe que j'aime beaucoup, ce philosophe hollandais, né au Portugal, Spinoza, qui a créé ce dicton Deus sive natura, qui signifie Dieu est nature. Et voilà, c'est personnellement le fruit de toutes ces années d'exploration, c'est que c'est vraiment dans la nature que j'ai eu le sentiment de trouver Dieu, de rencontrer Dieu, de me sentir au contact de Dieu. Voilà. La nature est un miracle.
Merci beaucoup Romain, merci aussi à Gaëlle qui est une personne qui fait partie de la communauté qui un jour m'a dit oh, j'ai entendu une interview, alors je sais plus où, de toi à la télé, et m'a dit ah mais je le verrai trop sur Pourquoi pas moi, donc merci à elle de m'avoir mis sur mon chemin, de t'avoir mis sur mon chemin.
Merci à toi Charlotte, merci Gaëlle, et puis à bientôt.
Ouais, à très vite.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour pouvoir en savoir plus sur Romain, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Il n'y aura pas de newsletter cette semaine, car je suis en vacances. Mais comptez sur moi pour avoir une belle newsletter à mon retour fin août. En attendant, si le podcast te plaît, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Au revoir!